Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Gardarem, la terre et la mer, émission diffusée sur 10 radios associatives, on ne va pas les énumérer tous les soirs, à l'occasion de ces rencontres internationales, donc Gardarem, la terre et la mer, à Nantes, dans l'Aveyron, organisée par l'Association pour l'aménagement du Larzac, la Confédération paysanne, l'Alliance internationale Terre citoyenne, l'Association des populations de montagne du monde, l'Association pour l'amélioration de la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles, l'ACTER, on va en parler tout à l'heure, soutenu par le Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la mer et la Fondation Charles-Léopold Meyer. Nico de Radio Larzac est à la technique, je suis Mathieu pour Radio Larzac aussi, je suis comme hier soir avec Joël pour animer cette émission. Bonsoir Joël.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Nous avons parlé de la pêche hier, ce soir une émission pour évoquer le problème de l'accaparement des terres qui est un peu au centre de ces rencontres. Avec nous pour en parler, Michel Merlet, directeur de l'ACTER, bonsoir.
Bonsoir.
Ibrahima Koulibaly, vous êtes président du CNOP.
Oui, bonsoir.
Donc, on présentera tout à l'heure ce qu'est le CNOP. Et Chantal Chacovetti pour le CNOP et Via Campesina, bonsoir.
Bonsoir.
On va donc commencer cette émission avec Michel Merlet. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'ACTER ?
Alors, ACTER, c'est une association internationale qui a son siège à Paris et qui est régie par le droit français, qui regroupe des personnes qui proviennent de différents continents. Et c'est une association qui est née à partir de différents réseaux informels qui s'étaient constitués il y a quelques années. Plus de 10 ans d'ailleurs. Et l'association a pour but d'essayer de contribuer à la formulation de propositions pour répondre aux grands défis de la planète autour des questions de la gestion de la terre et des ressources naturelles.
Et des propositions auprès de qui alors, pour qu'on se rende un petit peu compte ?
Alors des propositions auprès de tous ceux qui sont susceptibles de les porter. Hein, c'est-à-dire qu'on avait,
des ONG
Pas forcément, un peu tout le monde. Hein. On avait constaté, l'association est née, si vous voulez, pour reprendre un peu l'histoire, d'une dynamique qui a un peu commencé au niveau des forums sociaux mondiaux à Porto Alegre il y a 10 ans. Et on s'est aperçu à cette époque-là qu'en disposant d'un réseau de personnes qui venaient de différents continents, on pouvait arriver assez rapidement, en mettant ces personnes à parler entre elles, à avoir déjà une vision d'ensemble et des propositions intéressantes sans avoir besoin de faire de grandes conférences ou des travaux scientifiques extrêmement poussés. Ensuite, en 2004, on avait organisé, avant que l'association existe formellement, le Forum mondial de la réforme agraire à Valencia, en Espagne. Et c'est ce forum qui avait en grande partie contribué à ce que la FAO organise en 2006 la conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural, l'ICARD. Hein, et donc on s'est rendu compte que finalement, on pouvait très bien arriver avec un petit groupe de personnes à avoir des impacts au niveau mondial. Hein, et arriver à faire changer des positions d'organisations internationales. La FAO n'avait pas organisé de conférence internationale sur la réforme agraire depuis 1979.
Alors j'ai une petite interrogation aussi sur l'utilisation du terme gouvernance. Vous avez parlé de gestion dans votre présentation. J'ai peut-être une image biaisée des choses, mais gouvernance, moi, ça m'évoque toujours déjà un terme à la mode, au mieux et au pire, hein, une tendance à évacuer la dimension politique d'un certain nombre de problèmes. Alors, de la plaque
c'est un terme qui provoque beaucoup de réactions et beaucoup de discussions, mais c'est exactement l'inverse de ce que vous présentez. C'est-à-dire que dans notre idée, il n'y a pas seulement des gouvernements qui gouvernent, il y a aussi toute une façon de définir des normes, des règles depuis le bas. Il y a donc une gouvernance qui est quelque chose qui est à la fois un gouvernement depuis le haut, mais aussi des gouvernements aux différents niveaux. Et c'est ça qu'on appelle gouvernance. C'est donc très différent de la gouvernance des entreprises, hein, ou de la bonne gouvernance qui a été promue par la Banque mondiale. C'est une volonté de reconstruire des modes de gestion qui incluent les différentes populations aux différents niveaux et qui ne reconnaissent pas seulement la loi de l'État, mais aussi les lois locales.
D'accord, donc merci pour ces précisions. Joël ?
En même temps, il y a quelque chose d'assez paradoxal, puisque par exemple, là, je vois la Banque mondiale donc, s'apprête apparemment à injecter 30 millions de dollars dans un fonds qui achèterait les terres agricoles en Amérique latine pour les plus grosses fortunes mondiales. La Banque mondiale, on le voit en Europe actuellement, elle est en train de faire la pluie et le beau temps sur la dette de certains pays. Comment on peut séparer justement l'accaparement des terres et d'un autre côté cette question-là, quoi. C'est aussi là qu'ils arrivent à faire leur fortune quelque part.
Alors, vous vous attaquez sur une question qui est tout de suite assez compliquée. La Banque mondiale est une institution financière internationale qui a des programmes divers et en particulier tout un tas de programmes et de sous-institutions dont le but est de favoriser les investissements privés. Et donc il y a de fait une influence très importante de cette institution dans le développement de ces phénomènes d'investissement, d'achat massif ou de location à grande échelle de foncier. Il y a un institut américain, d'ailleurs le Oakland Institute, qui a assez bien montré dans des études récentes le rôle de ces institutions liées à la Banque mondiale dans les phénomènes d'accaparement des ressources naturelles et de contrôle sur le foncier.
Alors justement, on va peut-être rentrer un peu plus précisément dans le sujet. J'imagine que vous avez été assez naturellement ces dernières années été amené à travailler sur l'accaparement des terres. Comment, vous avez un peu de recul puisque avant qu'on en parle dans ces termes, je suppose que vous étiez déjà confronté à ces problèmes. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de cette problématique sur les 5-6 dernières années ?
Alors d'abord, ce qu'il faut vous clarifier, c'est que l'association ACTER regroupe un certain nombre de personnes qui ont travaillé depuis très longtemps sur les questions foncières, sur les questions de réforme agraire. Donc je vous ai parlé de l'organisation du Forum mondial sur la réforme agraire. Un de nos membres d'honneur est M. Jacques Chanchol, qui a été le ministre de l'Agriculture du président Allende au Chili il y a déjà assez longtemps. On a un autre membre d'honneur et quelqu'un qui est la personne qui a organisé le Forum mondial de réforme agraire. Et on a réussi, par ces différents contacts et ces différents réseaux, à avoir une expertise sur les questions foncières et des liens très importants avec un certain nombre d'organisations de la société civile. Il y a 2 ans et demi, quand l'ONG Grain a lancé au débat public cette question des accaparements, personne n'avait réfléchi vraiment sur ce problème. Et on s'est mis à ce moment-là, à la demande d'une organisation internationale qui regroupe des tas d'organisations différentes, à essayer de voir comment on pouvait aborder cette question des accaparements de terres. Et on s'est rendu compte, cette organisation s'appelle la International Land Coalition, ça regroupe des gens aussi divers que la Banque mondiale, la FAO, des organisations paysannes diverses. Donc c'est une organisation très hétéroclite. Et ils voulaient s'intéresser à ce qu'ils appelaient les pressions commerciales sur les terres. Et ils nous ont demandé, à notre petite association, de préparer une étude mondiale sur ces questions. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à réfléchir sur ce sujet. Et on a réfléchi avec ce réseau. Et on a finalement abouti à une proposition d'étude mondiale qui a été intéressante parce qu'elle remettait en cause un certain nombre de concepts et d'idées. En particulier, on a dès le début questionné le terme d'investissement, en disant qu'il fallait essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière investissement. Et ensuite, donc, après avoir commencé ce travail, en avançant un certain nombre de pistes, le Comité technique foncier et développement, qui est une instance informelle liée à la coopération française qui regroupe un certain nombre d'experts qui travaillent sur ces questions, nous a demandé de coordonner un groupe de travail interministériel qui associe une partie des organisations de la société civile qui travaillent sur cette question pour préparer un document qui allait servir à définir la position française sur ces questions. Alors là, on a parlé d'appropriation massive de terres et on a réfléchi avec cet ensemble de personnes sur les tenants et les aboutissants de ces questions en remettant en cause pas mal d'idées préconçues.
Et concrètement, parce qu'on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, enfin ces 2 dernières années, on va dire, c'est des thèmes qui sont parvenus au grand public avec des achats d'acteurs étatiques ou privés d'ailleurs, notamment en Afrique. Et c'est sorti au moment du Forum social mondial de Dakar qui était au printemps, il me semble. Je ne sais pas si vous y étiez et...
Alors nous y étions, et non seulement nous y étions, mais nous avons participé à l'assemblée de convergence qui a eu lieu sur cette question des accaparements des terres, et préparé en appui à la Via Campesina, un certain nombre d'autres grandes organisations, l'appel de Dakar, qui est un appel qui met l'accent sur la nécessité urgente de se mobiliser contre ces phénomènes d'appropriation massive de terres. Parce que nous estimons que finalement, il s'agit d'un des grands enjeux pour le début du XXIe siècle, et que ces phénomènes actuels, qui ne sont certes pas totalement nouveaux, mais dont la vitesse et l'amplitude sont totalement nouveaux, cette fois-ci, hein, remet d'une manière très très importante en cause les équilibres mondiaux, provoque à terme des crises à la fois alimentaires, environnementales et politiques, et constitue donc un véritable danger pour l'humanité au même titre que le réchauffement climatique. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait absolument mettre en avant. Hein, et c'est à part ce qu'on a réussi à faire des analyses avec ce travail qui a incorporé des gens à la fois des organisations paysannes, des chercheurs de différents pays, et des gens des organisations de la société civile, c'est parce qu'on a réussi à faire ces analyses là qu'on peut mettre en avant le caractère stratégique au niveau mondial de ces questions. Pour être bref, si vous voulez, les processus à la fois d'appropriation de terres communes et en même temps de concentration de terres qui étaient déjà gérées en propriété privée au niveau mondial, sont sans commune mesure avec les processus habituels d'ouverture de nouvelles terres agricoles que l'on a pu vivre au cours des dernières décennies. Hein, je vais vous citer un chiffre de la Banque mondiale, donc pour voir, ce n'est pas des révolutionnaires ni des gauchistes, a priori. Hein, ils estiment, donc, et c'est une des estimations qui sont difficiles à faire, qu'aux alentours de 50 millions d'hectares auraient été susceptibles d'être appropriés ou auraient fait l'objet de tentatives d'appropriation sur moins d'une année, alors qu'en gros, la quantité de terres qui étaient ouvertes, terres agricoles nouvelles qui étaient ouvertes chaque année au cours des dernières décennies, et un petit peu entre 3,5 et 4 millions d'hectares. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, et c'est la rapidité du processus qui rend le phénomène extrêmement préoccupant.
Et est-ce que d'après vous, c'est un phénomène réversible ? Bon, on va venir au fur et à mesure de l'émission sur les propositions, mais...
Alors si c'était un phénomène réversible, on ne se préoccuperait pas du tout. Le problème, c'est que le phénomène est totalement irréversible, et ce, à différents niveaux. Il est irréversible au niveau naturel, au niveau des milieux forestiers en particulier. Quand vous coupez une forêt, c'est pratiquement impossible de recréer un milieu forestier par la suite. Il est irréversible au niveau des sols. Quand vous détruisez des sols, vous ne pouvez pas les reconstruire à l'échelle humaine, disons. Ça demande des décennies, voire des centaines d'années pour reconstruire des sols. Il est irréversible au niveau social et culturel. Quand vous détruisez des populations paysannes avec des savoir-faire qui se sont développés pendant des siècles, on ne peut pas reconstruire des paysannats en l'espace d'une génération. On voit ça très bien dans les pays de l'Est, en Ukraine, en Russie, où la marginalisation du paysannat fait qu'aujourd'hui, la porte est complètement ouverte à des accumulations de terres et la création d'énormes entreprises sans aucune opposition possible de la part des paysans ukrainiens ou des paysans russes.
Il y a quand même quelque chose d'assez frappant, c'est les agrocarburants, par exemple. On a poussé pas mal d'agriculteurs, notamment au Brésil, à déforester leurs terres pour nourrir ici nos voitures et qu'eux ne puissent plus se nourrir. Et ça a été poussé par pas mal de gouvernements parce que c'était l'écologie et tout ça. Et on s'est aperçu en bout de course que c'était une déstructuration de l'alimentation au niveau de ces peuples. Comment effectivement on en arrive à des aberrations de la sorte, par exemple ?
Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, en effet. C'est-à-dire que si le phénomène se développe avec une telle vitesse et fait l'objet de telles opérations financières ou de prise d'intérêt ou de prise de contrôle, c'est qu'en fait, il y a derrière tout ça énormément d'argent à faire, des profits gigantesques à réaliser. Et ces profits, pour vous donner un ordre de grandeur, sont de l'ordre de 30% de rentabilité annuelle sur les capitaux investis, c'est-à-dire d'une manière considérable, beaucoup plus important que les profits qu'on peut obtenir en travaillant d'habitude dans l'investissement normal. Alors, une des parties très importantes de notre travail, ça a été de dire « attention ». On parle d'investissement, mais c'est un leurre. En fait, il ne s'agit pas d'investissement, il s'agit de capture de richesses. Et ces captures de richesses ne passent pas forcément par l'achat de terres. Le cas ukrainien, par exemple, vous avez un moratoire sur la vente des terres en Ukraine, et c'est pourtant un des pays dans lesquels la concentration des entreprises et le contrôle des entreprises privées, des énormes holdings sur les terres ukrainiennes, qui sont les meilleures terres céréalières du monde, a été le plus important. Hein, pour vous donner une petite idée, en Ukraine, on a pu calculer que 80% de la richesse créée, sur l'ensemble de la richesse nette créée sur les unités de production agricole, sert à rémunérer le capital. pratiquement ne payent rien pour rémunérer la terre, c'est-à-dire que les propriétaires formels de ces petits lopins n'ont aucune marge de manœuvre, aucune marge de négociation avec les gros holdings. Hein, ils ne reçoivent pratiquement rien. Le taux de location, le prix de location des meilleures terres agricoles céréalières du monde est moins inférieur à 25 euros par an. Et par ailleurs, on peut utiliser aujourd'hui avec des machines une main d'œuvre extrêmement peu nombreuse, hein, et en plus extrêmement sous-payée. Donc la rémunération, la partie de la valeur ajoutée qui va rémunérer la force de travail est extrêmement faible. Et c'est ça le mystère de ces appropriations massives, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, on a un énorme Eldorado pour faire des profits qui vient du fait que grâce aux techniques modernes, on n'a plus besoin de déplacer les populations, on peut travailler d'une manière extrêmement rapide et faire d'énormes profits. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ça peut se faire en plus d'une manière totalement légale, avec l'accord des populations, avec des populations qui sont dans une impossibilité de négocier autre chose, hein, avec l'accord des pays, hein, et avec l'accord donc des entreprises qui vont gérer tout ça.
Très bien, Michel Merlet. Merci pour ce premier tour d'horizon. Avant de passer à un cas plus précis avec l'exemple du Mali, tu nous exprimeras Ibrahima Koulibaly, on va faire une première pause musicale. C'est La Chose avec Gosse de la Terre.
Quel est donc ce tableau, juste un prélude au chaos, juste une accalmie avant le feu, le tonnerre et l'eau. J'ai le moral au plus bas, malgré cette vie de pacha, un mauvais pressentiment, un truc à vous glacer le sang. Je suis qu'un gosse de la terre, au chevet de sa matière, qui paie un lourd tribut au nom de la folie de ses pères. La vie est belle, mais qu'avons-nous fait pour en arriver là, qu'avons-nous tous oublié? C'est vrai qu'on a la Wii, Britney Spears, c'est la télé. Vrai qu'il y a eu pires époques dans l'histoire d'humanité. Mais on vit dans le déni, le mensonge et l'inconscience. Non, il n'y aura pas de solution miracle apportée par la science. Enfer ou paradis, mais que dire de la vie? Rien n'est jamais précis, c'est l'obscur et le clair. C'est vrai qu'on choisit pas, mais chez nous c'est ici. Moi je sais qui je suis, juste un gosse de la terre. Toutes, tous, des enfants de la terre. Toutes, tous, filles et fils de la terre. C'est vrai que la vie c'est le paradis, mais l'homme en a fait un enfer. On a tous croqué la pomme dans laquelle se cachait le ver. Nous, société vive au-dessus de leurs moyens. Si je me gaffe, c'est qu'ailleurs, quelqu'un crève la faim. C'est ça le progrès, on s'est bien fait leurrer. Je fais un drôle de cauchemar, pourtant j'ai pas les yeux fermés. À l'aube d'une catastrophe, rédemption pour la terre. Nous ne sommes que des nuisibles qui pourront me prouver le contraire. L'homme a péché, vaniteux, un instant s'est pris pour Dieu. Mais réel nous rattrape, nous envoie paître dans les cieux. Oui monsieur, c'est violent, mais ce n'est encore qu'une chanson. Cri de rage et d'impuissance à l'heure où l'espèce humaine chancelle. Ça part en couille de partout, mal les alentours. Ne crois-tu pas qu'on a atteint le point de non-retour? Enfer ou paradis, mais que dire de la vie? Rien n'est jamais précis, c'est l'obscur et le clair. C'est vrai qu'on choisit pas, mais chez nous c'est ici. Moi je sais qui je suis, juste un gosse de la terre. Toutes, tous, des enfants de la terre. Toutes, tous, filles et fils de la terre. Gardez vos attributs, vos messies, gardez vos chimères. J'ai besoin de ça pour vivre ici. Vos objets inutiles, vos armées d'actionnaires, et tout ce qui flash et qui brille, je suis qu'un gosse de la terre. Gardez vos discours, vos théories, vos états d'âme, gardez votre égoïsme, vos vies sous cellophane, gardez vos lingots, vos billets, gardez tout ce qui brille. Je ne vois que de l'intérêt dans le fond de vos pupilles. Pas besoin d'autant de sang, des balais sur ton écran. Gardez vos bons sentiments qui s'érodent avec le temps. Pas besoin de toutes vos lois pour devenir responsable. Bientôt, on n'aura plus le droit d'avoir des couteaux à table. Gardez vos systèmes high-tech, vous espionnez nos faits et gestes. On veut juste vivre en paix sans se cacher derrière nos vestes. Gardez tous vos produits, vous nous encombrez la vie pour plein de choses trop futiles. C'est le monde qu'on détruit.
De retour dans l'émission autour des rencontres internationales, Garde à Rennes, la terre et la mer sur Radio Larzac.
Radio Larzac et plein d'autres. C'est un projet interradio de 10 radios associatives. Donc on va passer à Ibrahima Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes président de la CNOP, qui est la Coordination Nationale des Organisations Paysannes, qui est une organisation malienne, qui est un syndicat, c'est...
Oui, en fait, c'est une plateforme qui regroupe 11 fédérations d'organisations paysannes, donc qui sont souvent des syndicats, des organisations économiques qui se sont retrouvées dans une plateforme nationale pour être plus fort face aux autres acteurs, notamment l'État, sur les questions de politique agricole.
Et donc, vous êtes ici à ces rencontres d'Ardarem, la Terre et la Mer. Et vous venez d'intervenir d'ailleurs en fin de journée pendant les réunions sur le thème de l'accaparement des terres. Donc, qu'est-ce que vous avez dit et comment est-ce que le problème se pose au Mali ?
Effectivement, c'est une question extrêmement douloureuse pour le Mali, puisque en fait, en 2005, le gouvernement du Mali, sur la pression des organisations de ce paysan, avait accepté qu'on élabore une politique agricole. C'était la première politique agricole concertée, élaborée dans notre pays. Donc nous nous sommes beaucoup mobilisés pour élaborer cette politique agricole, qui reconnaît que c'est l'agriculture familiale qui représente le mode de production le plus répandu, qui doit être soutenu, protégé. On a obtenu énormément de choses que je dirais presque révolutionnaires dans cette politique qui a été votée par le Parlement en 2006. Mais malgré cela, nous sommes rendus compte, à notre grand étonnement, que notre gouvernement s'est engagé sur la voie de la cession massive des terres, pour prendre un terme un peu proche de ce que Michel disait tout à l'heure. Parce que le gouvernement n'aime pas qu'on dise accaparement, qu'il n'y a pas d'accaparement, parce qu'ils n'ont pas vendu des terres. Mais nous, pour nous, et je vais revenir certainement là-dessus, c'est la même chose. Parce que le problème de fond, c'est que c'est un manque de transparence totale. Et qu'est-ce qui se passe ? Un investisseur vient, il y a un conseil présidentiel d'investissement qui est situé au niveau de la présidence de la République, qui est constitué de jeunes managers sortis des universités américaines. C'est là où tout se passe. Donc, ils vont voir ces gens qui les amènent devant le président de la République, qui demandent au ministre de l'Agriculture de leur donner des terres. C'est comme ça que ça se passe. Et comment voulez-vous que des droits des communautés, que disons, la justice sociale, que la bonne gouvernance soit appliquée dans ces conditions. C'est un système de corruption très, très clair et net qui est en œuvre. Donc c'est pour ça que nous nous sommes mobilisés. Quand nous avons su en fait que le gouvernement avait cédé des superficies extrêmement importantes, et aujourd'hui on est à des engagements qui se chiffrent à plus de 750 000 hectares au Mali, parmi les terres les plus fertiles. Bon, il y a un peu d'histoire autour de ça, parce que en fait ces terres se trouvent dans une zone où pendant la colonisation un barrage a été construit, et le barrage théoriquement pouvait irriguer 1 million d'hectares. Donc le colonisateur à l'époque, la France, avait fait un titre foncier sur 1 million d'hectares. Et à l'indépendance, ils ont rétrocédé ce titre foncier au gouvernement. Donc le gouvernement pense que ces terres lui appartiennent en privé. Ce sont des terres privées du gouvernement. C'est pour ça qu'ils se permettent d'aller aussi vite sur la question. Et donc ils ont cédé, par exemple, à la Libye, l'État libyen, 100 000 hectares. Et donc qui a créé une société qui s'appelle Malibia. Et cette société, puisque la Libye avait beaucoup de moyens avec son pétrole, a tout de suite commencé les aménagements. Et c'est là où nous avons été interpellés par nos mouvements à la base pour dire « mais il se passe quelque chose de grave, parce qu'on voit des machines qui sont en train de creuser des trous, et puis personne ne nous a consultés ». Donc nous avons envoyé des missions pour aller évaluer la situation. Mais en fait, la société, ceux qui gèrent la société, en fait, pour eux, ils étaient dans leur droit, parce que pour eux, on leur a donné des terres vierges. Or, il n'y a pas de terres vierges au Mali. Même ces terres sur lesquelles on a fait ce fameux titre foncier pendant la colonisation, ce sont des centaines de villages, ce sont des millions de personnes, ce sont des dizaines de communautés paysannes qui sont sur ces terres, qui font de l'agriculture pluviale, qui font du pastoralisme, qui font plein de choses. Donc c'est une négation totale de tous leurs droits. Donc les gens sont venus, ils ont dit qu'ils ont commencé à faire un canal qui est un véritable fleuve artificiel. Et donc ils ont commencé à détruire les plantations de mangue, de bananes, des périmètres maraîchers des femmes. Ils ont commencé à tout détruire sur le tracé du canal. Sur presque 40 km, ils ont fait ce gigantesque canal. Et donc c'est là où nous avons commencé à nous mobiliser. Parce que nous nous sommes dit, on ne peut pas s'asseoir et regarder un tel phénomène. C'était le premier problème auquel on a été frontalement opposé. Et donc nous avons commencé à essayer de nouer le dialogue avec le gouvernement, mais c'était une opacité totale, parce qu'ils ne voulaient pas en parler. Pour eux, c'était une aubaine pour le Mali, parce que c'est de l'investissement. Et donc pour nous, c'était tout sauf de l'investissement, comme disait Michel tout à l'heure, parce qu'en réalité, c'était un vol de terre. Et là, surtout, le contrat qui avait été signé par le gouvernement malien ne précisait rien sur ce que ces terres-là allaient devenir.
Et donc il n'y avait rien sur l'usage qui allait être fait de ces
terres. Non, c'était véritablement une chose grave, parce que le contrat disait même que la Libye avait une sorte de priorité sur l'utilisation de l'eau, ce qui est extrêmement grave, parce qu'il y a déjà des problèmes pour irriguer les terres, les rizières des paysans. Donc si la Libye qui a fait ce fleuve artificiel, qui n'a pas fait d'investissement pour amener plus d'eau, une fois que son canal allait être mis en eau, ce qui a été prouvé immédiatement après, allait prendre toute l'eau qui viendrait du barrage. Et donc cela a créé des problèmes extrêmement graves, parce que quand ils ont fait la mise en eau de leur fleuve, ils ont pompé toute l'eau. Et donc il n'y avait plus d'eau pour irriguer les champs des paysans. Donc c'était extrêmement grave. Bon, donc c'est pour dire que ça nous a poussé à organiser une grosse mobilisation en novembre dernier, autour du 22 novembre 2010, et où nous avons réuni près de 2000 leaders paysans locaux, les chefs de communauté, pour dire au gouvernement que jamais nous n'accepterons et jamais nous ne baisserons les bras. Nous n'allons jamais accepter que les paysans soient spoliés de leurs droits, parce que s'il y a des gens qui ont des droits sur ces terres, ce sont ces communautés qui ont toujours vécu avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation. Et après ce gouvernement, ils vont vivre sur ces terres-là. Donc il n'est pas question de partir.
Comment s'organisent les paysans au Mali justement face à ça? Comment ils s'organisent?
Mais nous étions déjà organisés, comme je l'ai dit, nous avons 11 grandes fédérations qui se sont mises ensemble malgré les difficultés. Bon, vous savez que ce n'est pas facile, la question de leadership, mais on a pu se mettre ensemble, créer une plateforme nationale pour discuter avec le gouvernement. Ça a pris des années, mais on a pu le faire. Donc la Coordination nationale des organisations paysannes, qui a été l'acteur majeur aussi de l'élaboration de cette politique agricole dont je vous ai parlé, qui a été votée sous forme de loi d'orientation agricole. Donc c'est cette coordination qui porte les grands combats sur les questions des politiques agricoles et autres au niveau du Mali. Donc, quand nous avons été interpellés par nos membres qui sont à la base dans cette zone précisément de l'Office du Niger, où il y a un syndicat très dynamique, nous sommes allés évaluer la situation. Ici, on a discuté avec nos membres à la base pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on a fait venir des journalistes pour essayer d'aller les constater, pour qu'on commence à parler de ça, non seulement dans la presse locale, mais aussi dans la presse internationale. Et actuellement, le sujet est connu dans le monde entier. Nous recevons des journaux, des télévisions, on reçoit toutes sortes de personnes, des chercheurs, des étudiants qui viennent travailler sur le sujet, qui veulent comprendre, qui veulent faire de la recherche sur le sujet. Donc mondialement, on en parle. Mais nous avons besoin d'avoir un impact fort. C'est pourquoi nous avons fait la mobilisation de novembre. Parce qu'on voulait faire une démonstration de muscles au gouvernement pour dire que, ben, vous savez, nous sommes là, nous sommes présents et nous sommes une force. Et nous n'accepterons pas. Donc c'est pour ça qu'on a fait la mobilisation. Mais au-delà de la mobilisation, nous avons planifié d'autres actions, notamment des actions en justice contre le gouvernement. Parce que pour nous, et nous avons tout l'argumentaire pour ça, c'est un acte de banditisme, même si c'est un gouvernement qui l'a posé. Il s'agit de prendre à des communautés qui ont des droits reconnus par, encore là, une loi, des textes juridiques du Mali qui reconnaît le droit coutumier. Donc ces populations qui ont existé avant la colonisation avaient ces droits coutumiers. Comment du jour au lendemain on peut les spolier de ce droit? Donc nous pensons que nous pouvons gagner un procès facilement contre le gouvernement là-dessus. Et c'est pour ça que nous sommes en train de préparer une action en justice contre le gouvernement. Et nous sommes en train aussi de préparer une marche sur de descente. On ne sait pas si on la fera, si on gagne le procès, peut-être on ne la fera pas, mais on est prêt à marcher de cette zone jusqu'à Bamako, sur près de 400 km. Pour que le gouvernement sache que réellement nous sommes déterminés et nous allons nous battre avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Donc, sur la question, mais il y a eu d'autres affrontements après Malibia, notamment Sanamandougou, donc, qui est un village où le gouvernement a donné beaucoup de terres à un commerçant, près de 7000 hectares. Mais le commerçant n'était pas satisfait des terres qu'on lui a attribuées. Il voulait des terres, d'autres terres, qui sont des terres vraiment intensément utilisées par des communautés depuis des générations, où il n'y a pas d'espace vierge, il n'y a même pas de pâturage dans cette zone que je connais très bien. Et donc, il est allé, quand il a voulu véritablement prendre les possessions des terres, la population s'est mobilisée. Donc, il a essayé de corrompre les leaders du village, mais ça n'a pas bien marché. Et donc, ça crée des affrontements. Et ce commerçant a eu la possibilité d'aller mobiliser l'armée malienne pour venir réprimer les populations. Et là aussi, nous allons faire une action en justice pour que ceux qui ont été brimés pendant qui ont été victimes de cette répression puissent avoir, être restitués dans leurs droits. Donc c'est un phénomène extrêmement dangereux, extrêmement violent, qui s'exprime véritablement d'une façon extrêmement violente contre les paysans. Donc c'est une négation totale des droits. Et donc nous n'avons pas d'alternative. Si nous plions, nous sommes foutus. Demain, il n'y aura pas un paysan au Mali, parce que s'il reçut ça à l'office du Niger, c'est toutes les terres agricoles du Mali qui vont passer sous le contrôle du capital étranger.
Donc un rapport de force qui est, que vous n'avez pas eu le choix que vous instaurez. Je suppose que la solidarité internationale a une place importante. Je vais me tourner vers Chantal, qu'on n'a pas encore entendu. Tu représentes Via Campesina ici. Est-ce que tu peux d'abord nous rappeler rapidement ce qu'est Via Campesina et nous expliquer ce que tu fais au Mali?
Oui, la Via Campesina, je vais d'abord laisser Ibrahim le présenter puisqu'il fait partie du comité international.
Bien sûr.
Via Campesina était un mouvement paysan international qui est sur tous les continents et qui est un mouvement paysan qui s'est constitué autour des organisations des petits producteurs, des paysans sans terre, des peuples autochtones qui toujours sont les plus grandes victimes des politiques de libéralisation. Et donc c'est un mouvement paysan qui a lancé notamment le concept de souveraineté alimentaire, qui est donc ce droit que doivent se donner des États ou des communautés de définir des politiques et des politiques agricoles et alimentaires, et de pouvoir les mettre en œuvre, de pouvoir se protéger notamment. Et donc, Via Campesina est très engagé sur la question de l'accaparement des terres, parce que ce sont ses membres qui sont les premières victimes. Ce sont toujours les communautés paysannes, ce sont des peuples autochtones, ce sont des pêcheurs qui sont victimes de ces phénomènes-là. Donc, c'est pas pour rien que Via Campesina, très tôt, a tiré la sonnette d'alarme, s'est mobilisé à faire des déclarations, des prises de position, et organise des mobilisations un peu partout dans le monde sur ce phénomène.
Donc Chantal, on t'écoute.
Alors pour aller dans la continuité, il y a deux choses qu'on doit dire. C'est que ce combat contre l'accaparement des terres concerne tout le monde sur toute la planète. Donc il y a urgence de s'allier, d'être solidaire, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, pour avoir une réflexion collective, pour avoir des propositions fortes et pour pouvoir soutenir localement les luttes. Donc, dans cet esprit-là, à la Via Campesina, qui, comme vient de le dire Ibrahim, porte ce dossier, a voulu, sur 2 ans, au sein de toutes les organisations paysannes adhérentes à la Via Campesina, mais aussi des autres organisations, pouvoir dynamiser cette réflexion et pouvoir aussi être un appui fort pour toutes les luttes locales. Donc, aujourd'hui, je suis une ancienne paysanne en France. J'étais aussi ancienne militante à la Confédération paysanne, aussi bien au niveau national que régional et local ici. Et aujourd'hui, toute cette envie d'être solidaire, c'est d'aller. Je suis au Mali à la CNOP avec la Via Campesina, parce que c'est tous ensemble qu'on doit lutter, qu'on doit partager et nos expériences et nos réseaux pour pouvoir lutter contre cet accaparement de terres. Donc, comme l'a dit Ibrahim, il y a les luttes locales. On est en train de travailler sur les plaintes juridiques. Mais il y a aussi tout le travail qu'il y a besoin pour que les ONG qui, jusqu'à aujourd'hui, ont fait ONG, experts et médias, ont fait leur rôle, c'est-à-dire d'avoir mis en exergue cette problématique. Aujourd'hui, ils doivent maintenant écouter les voix paysannes, écouter ce qu'ils ont à dire, prendre en compte leurs réelles préoccupations. Nous avons besoin de conseils juridiques, nous avons besoin d'approfondir les réflexions, nous avons besoin de soutien financier et humain pour quand localement il y a un manque et des préoccupations, qu'on puisse y répondre rapidement. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est en train d'organiser une semaine paysanne sur les réflexions de l'accaparement de terre qui va se dérouler du 13 au 20 novembre au Mali. On a déjà parlé des problématiques au Mali. Il y a les problématiques dans l'office du Niger avec l'État. Il y a aussi plein d'accaparements de terres qui sont en dehors des terres qui sont dites propriétés privées de l'État. Il y a entre autres, tout à l'heure, tu parlais du problème des agrocarburants. Tu posais ce problème-là. Il faut savoir que l'Union européenne a décidé qu'il y aurait 10% d'agrocarburants dans ses politiques agricoles, que ces politiques agricoles du Nord décident ça, mais que les terres, pour faire ces agrocarburants, ils vont aller les chercher, entre autres, en Afrique. Et qu'entre autres, au Mali, il y a un endroit qui s'appelle Yanfolila, où on est en train de développer du jatropha pour faire des agrocarburants, au détriment des cultures vivrières. est soutenue par l'Agence française de développement. Donc, il y a quand même des il y a toutes ces politiques du Nord aussi, ces choix politiques qui permettent allègrement aux gens du Nord de venir sur les terres du Sud et de dire, nous, on va remplir notre contrat, dire que vous, vous ne mangez pas, mais nous, on préfère faire marcher nos voitures. Donc ça, ça fait partie des enjeux qu'il y a aussi. Donc, pour parler de tout ça, il y a différentes formes d'accaparement de terres. Il y a besoin que la voix paysanne s'exprime. Donc, comme je le disais, on va faire une semaine paysanne avec une rencontre continentale, c'est-à-dire des rencontres des organisations paysannes africaines pour qu'on puisse ensemble voir, faire un état des lieux et quelle stratégie porter en tant que continent africain. Après, il y aura une rencontre intercontinentale, j'allais dire, avec les organisations paysannes d'Avia Campesina pour là construire collectivement un message fort. Et il y aura 3 jours de conférences internationales qui sont ouvertes, non pas pour entendre les experts, mais pour entendre la souffrance et aussi la résistance que met en place les paysans et les paysannes sur le terrain. Et de dire aux personnes qui seront là, qui sont les ONG, qui sont les personnalités, les experts, c'est de dire maintenant, écoutez-nous, voilà ce qu'on a besoin, vous nous accompagnez dans nos luttes et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir aller. Et dans un an plus tard, il y aura une autre conférence internationale qui sera organisée en Asie, où on pourra faire le point de cet avancement, des avancements où on aura été. Les messages apportés, c'est aussi à construire. Ça va se faire aussi au niveau des instances internationales. On sait qu'aujourd'hui, à la FAO, est en train de travailler sur des directives, malheureusement, qui jusqu'à aujourd'hui sont encore volontaires, mais pas contraignantes. Pour une gestion, vous avez parlé de gouvernance tout à l'heure, pour essayer d'avoir une sorte de feuille de route de tenue de gestion des terres et des ressources naturelles pour qu'il y ait des points forts. Parce que, comme l'a dit Ibrahim, nous sommes dans des États où il n'y a pas de loi foncière, où il n'y a pas de droit qu'on peut défendre. Et il y a besoin d'avoir un peu une construction supranationale pour des droits universels dans le cadre de l'esprit des biens communs. Et de sauvegarder ces biens communs pour aujourd'hui et pour les générations futures. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à la Banque mondiale qui est en train de dire, mais nous, vous inquiétez pas, on va faciliter l'accaparement des terres, mais on va le faire dans l'esprit gagnant-gagnant, ce qu'ils ont appelé les investissements agricoles responsables. Donc il y a une bagarre en ce moment, on a besoin que tout le monde se mobilise pour dire à la FAO, qui est un organisme international, non, mettez-vous du côté des peuples et faites qu'il y ait des droits internationaux qui existent. Et là, il y a une bagarre qui s'engage avec la Banque mondiale et tous leurs alliés là-dessus.
Très bien, merci Chantal et merci Ibrahima pour ces éclairages. On va continuer à discuter de ces questions d'accaparement des terres, même si on n'a pas le temps de rentrer dans les détails en une heure d'émission. Je pense qu'on est en train de balayer pas mal d'aspects du sujet. Donc on fait une deuxième pause, c'est Yvan Caillas avec Vache sans terre.
Percute, se rapproche du fond, faire place nette, regarder des bouts d'horizon, tour de manivelle d'acier dans le ciboulon. On est ce qu'on fait, il paraît, faut se faire une raison. Tout ce qu'on presse, qu'on tient, s'échappe de nos mains. Ça fait longtemps que le sable nous regarde en biais, plane sur les têtes des sourires aux dents acérées. Le corps fatigué, laissé derrière soi, des sillons creusés, autant devant soi, à recommencer. Les moins forts pour eux sont toujours derniers, les plus riches pour nous seront les premiers. Aucune trêve ni paix ne reste à rêver, Ubu sur son trône peut encore régner. Ça tourne à l'envers.
faire une raison. Tout ce qu'on presse, qu'on tient, s'échappe de nos mains. Et toujours le sable nous regarde en biais, plane sur nos têtes des sourires aux dents acérées.
D'Arem, de la terre à la mer, suite et fin.
Donc oui, nous entrons dans la dernière partie de cette quatrième émission de la semaine, hein, dans ces rencontres internationales, donc autour de l'accaparement, du thème de l'accaparement des terres. Michel Merlet, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit par Chantal et Ibrahim.
Alors je voudrais rajouter un petit peu, insister sur l'importance des thèmes qui ont été abordés. Ce qui a été décrit au Mali est extrêmement impressionnant. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau mondial, on a à peu près 1,5 milliard d'hectares qui sont cultivés et on estime qu'il y a à peu près la même quantité qui serait susceptible d'être cultivée. Ça ne veut pas dire que ce sont des endroits où il n'y a personne. Ça veut dire que c'est l'ampleur du phénomène d'accaparement des ressources naturelles, des richesses, d'appropriation massive qui a lieu, il porte sur la même quantité de terres que celles qui sont actuellement cultivées. Donc ce n'est pas rien. Il faut aussi rappeler que pour le moment, une personne sur deux au niveau de la planète est un habitant rural. Et donc ce qui est en jeu, c'est la destruction de la moitié de l'humanité. Et ce n'est donc pas rien du tout non plus. Donc pourquoi la destruction de l'humanité ? Parce que quand vous mettez en place des plantations très importantes, des semis sur des très très grandes unités, eh bien vous avez un effet destructeur, non seulement sur les gens à qui vous avez pris la terre, mais aussi sur les paysans qui se trouvent à l'autre bout de la planète, par des effets de répercussions sur les prix, le fait que vous produisez artificiellement à des coûts extrêmement faibles, que vous imposez sur les marchés mondiaux des prix qui sont totalement inférieurs aux coûts de production de l'immense majorité des paysans. Et donc, il y a un effet de bombe à retardement, et le retardement n'est pas très long, qui fait que vous avez d'immenses quantités de paysans qui sont détruits sans jamais avoir été impliqués directement dans ces processus. Donc, c'est pour ça que cette question, elle est absolument fondamentale. Elle est aussi fondamentale parce que si vous sortez de leur travail de producteur, de paysan, des quantités très importantes de personnes, vous n'aurez absolument pas les moyens de les réemployer dans l'industrie. Il y a donc un problème d'emploi qui est gigantesque. Et enfin, vous avez également un problème très important au niveau des ressources naturelles. Donc c'est... Ce qui a été dit aussi sur le Mali est très important parce que finalement, il n'y a pas toujours accaparement des terres. Ce qui s'est passé en Argentine, il y a eu vente, il y a eu concentration des terres. Et parfois, il y a des contrats parfaitement légaux qui ont lieu, comme en Ukraine, où il y a quand même accaparement de richesses. Et donc, une des choses importantes qu'on a essayé de mettre en avant et d'expliciter, c'est qu'en fait, il y a toujours dans la production agricole, dans l'élevage, une partie de la production qui provient de la richesse naturelle, de la richesse du sol. Et cette partie-là, c'est quelque part quelque chose qui devrait rester un bien commun de l'humanité. Donc on a en fait, par ces phénomènes-là, une appropriation de la richesse potentielle qui existait dans ces territoires. Autre chose importante qui a été dite par Chantal, certaines politiques publiques au niveau international, par exemple celle de la promotion artificielle des agrocarburants, créent des prix très supérieurs aux prix qui auraient été ceux du marché normalement. Et donc on a des phénomènes de rente qui sont créés, de revenus exceptionnels qui sont créés par ces politique. Donc en fait, l'Union européenne oblige l'incorporation d'agrocarburants dans les combustibles qui sont vendus sur le marché, ça crée des raisons pour les entreprises pour pouvoir accaparer des terres et pouvoir prendre le contrôle de grandes terres, de grandes superficies. Donc c'est des phénomènes complexes, mais ce qui est important de voir, c'est que les effets, à la fois au niveau social, aussi au niveau environnemental, sont dramatiques au niveau local, mais sont aussi dramatiques au niveau de la planète dans son ensemble.
Oui, parce qu'une fois qu'on a accaparé des terres, spolié des populations, il y a des phénomènes des zones rurales et on s'interdit aussi complètement de développer des activités non agricoles dans ces zones rurales. Enfin, la déstructuration des économies locales va beaucoup plus loin, je veux dire.
Tout à fait. Et on a en fait un discours qui a l'air d'être économiquement satisfaisant, hein, qui est celui de la rentabilité des exploitations, où on confond de manière systématique la rentabilité financière pour les entreprises et l'intérêt économique qu'il y aurait pour les populations. Et ça, c'est la grande question qu'il y a autour des fameuses responsabilités sociales des entreprises et responsabilités sociales des transnationales. Cette responsabilité sociale n'est pas du tout, ne peut pas être limitée à des actions de bienfaisance qui seraient faites par ces entreprises. Hein, il y a de fait une non-responsabilité juridique de ces entreprises qui n'existe pas au niveau légal, au niveau international. Les transnationales, on ne pouvait pas attaquer une transnationale parce qu'elle n'existe pas juridiquement. Hein, donc il y a des véritables problèmes au niveau de la gouvernance globale, au niveau de la gouvernance mondiale, qui vont bien au-delà d'ailleurs de ces questions des simples accaparements de richesses ou de terres, qui sont les mêmes qu'on va retrouver sur la gestion du climat et du réchauffement climatique. Hein, et ça nous oblige à aller au-delà des réflexions habituelles et à mettre en avant la nécessité absolue de ne pas nous limiter à des directives volontaires ou à des accords mutuels entre les parties, hein, mais à l'obligation de monter des dispositifs qui puissent obliger les États et les transnationales à avoir des attitudes qui ne signifient pas pour l'humanité une mise en péril de sa simple reproduction dans les décennies à venir.
Donc à terme des juridictions internationales ?
Eh bien oui. On est bien
obligé. Et sur quelle base ? Sur les agences de l'ONU ? Qu'est-ce qui pourrait faire émerger ça ?
Alors, on est une association très audacieuse, mais on n'a pas encore trouvé la solution. Hein. Par contre, ce qu'il faut bien dire, c'est que si ce problème est insoluble pour le moment, tout le monde nous dit que c'est impossible, hein, et c'est justement parce que c'est aujourd'hui impossible et parce que c'est absolument indispensable pour la survie de l'humanité qu'il faut s'en occuper tout de suite. Et il faudra trouver les manières pour que ça devienne possible avec des constructions qui peuvent se faire de manière différente au niveau de groupes d'États, hein, au niveau d'espaces régionaux, avec éventuellement des mécanismes qui pourraient être copiés d'autres mécanismes des Nations Unies comme ceux qui sont mis en place, par exemple, pour lutter contre les crimes contre l'humanité. Hein, il y a différentes façons de pouvoir travailler ça. C'est absolument urgent de le faire. Le gros problème, c'est que vous avez absolument tout le monde contre vous quand vous faites ce genre de proposition. Le Brésil, par exemple, qui peut avoir par ailleurs des politiques progressistes, est absolument opposé à ce que soient mis en place des politiques qui remettent en cause sa souveraineté. Hein, et c'est d'ailleurs un des principaux États qui font la promotion des agrocarburants. Hein, donc c'est extrêmement difficile d'arriver à avancer dans ce domaine. Mais c'est pour ça qu'il faut s'en occuper tout de suite.
Très bien, merci Michel Merlet. Dernier temps de cette émission, on se penchera tout à l'heure sur le programme, mais Ibrahima et Chantal, vous êtes venus avec une série de films documentaires. Donc, qui est-ce qui veut en parler ? Ils seront projetés demain soir, je crois.
Oui, en fait, comme je l'ai dit, nous avons fait un travail de terrain qui avait pour objectif de prendre aussi les témoignages des victimes directes. Parce qu'en réalité, ce sont des situations extrêmement douloureuses et c'est important que les gens sachent ce qui se passe. Quand des femmes, des veuves qui ont un petit lopin de terre font un peu d'oignon et qu'on vient raser ce petit champ d'oignon, c'est la famille qu'on a tuée. C'est comme un génocide. On les a enlevé leur seul moyen d'existence. Et souvent, c'est quand c'est des maisons qui sont cassées et qu'il n'y a pas de dédommagement. Ou alors qu'on essaie de dédommager d'une façon véritablement qui ne permet pas à la personne de se reconstruire. Donc ce sont des situations comme ça qui sont en œuvre quand c'est l'accaparement. Ou alors l'investisseur vient, il dit simplement, je ne vous chasse pas, mais pour chaque 10 hectares, je vous donne 1 hectare à la famille. Et c'est ce qu'a proposé le fameux investisseur de Sanamandou. Donc quand il a vu que ça corsait, il dit, je suis prêt à vous donner pour chaque 10 hectares, 1 hectare. Donc, si vous imaginez quelqu'un qui a 10 hectares, on vous prend 10 hectares et on vous donne 1 hectare en retour pour faire du riz. Donc, alors que ce sont des gens qui sont autosuffisants, qui n'ont pas besoin de faire du riz, qui peuvent se nourrir avec la culture pluviale du mil, C'est une zone qui exporte des céréales. Donc, c'est ce genre de situation que nous souhaitons un peu montrer. Bon, peut-être qu'on n'a pas, on ne pourra pas montrer toutes les situations, mais c'est quand même quelque chose. C'est important de voir la souffrance réelle des communautés, la souffrance des familles, la souffrance des femmes surtout, qui pour une fois, souvent ont accès à la terre dans cette zone.
Donc Chantal, peut-être un petit complément sur ces films.
Moi, je crois que ce film, il est important parce qu'il est à l'image de ce qu'on veut, de la façon dont les paysans et les paysannes ont envie de porter leur voix. Ce film, ça va être vraiment la voix des paysans et des paysannes qui sont victimes de ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de films sur ce... On a fait des grands films sur l'enjeu, sur l'enjeu en tant que tel. Je pense qu'il n'y a pas souvent eu de témoignages en direct. En plus, ça sera... En Bambara, hein, ça sera tout citré bien sûr pour ceux qui ne comprendront pas le Bambara. Mais je crois qu'il est important, c'est vraiment la façon dont on a envie de communiquer là-dessus, de pouvoir agir et que l'opinion suive ses préoccupations des paysans et paysannes et qu'il la partage et qui c'est dans ce sens-là qu'a été fait le film.
Alors vous avez travaillé comment ? Vous avez fait venir des réalisateurs ? Ça a été quelque chose que vous avez fait vous-même ?
Alors, il y a déjà quelqu'un qui était réalisateur, qui avait déjà accompagné la mission dont a parlé Ibrahim il y a un an, pour aller faire le constat. Comme il l'a dit, quand les premiers bulldozers sont arrivés, les paysans et les paysannes sur place ont interpellé le CNOP, qui a été avec des journalistes, dont un réalisateur malien, qui avait pris quelques photos, quelques images... Ouais. Il y avait sûrement des photos aussi, mais il y avait des images de films. Donc il y aura dans ce film, ça retracera cette première enquête. Il y aura des images, des témoignages du rassemblement qu'on a parlé de Colongo qui s'est fait il y a un an, qui a été vraiment un rassemblement où les femmes sont venues s'exprimer, des vieux qui ont été battus. Il faut savoir que les gens étaient emprisonnés pendant plus de 6 mois. Il y a des femmes qui ont perdu leur bébé parce qu'elles ont été battues, etc. Donc ça a vraiment été grave. C'est la première fois qu'il le disait, donc il y aura aussi des images à ce niveau-là. Et il y aura des images de Sanama Dougou aussi, de la dernière qui a été parlée. Donc ce qui est important, c'est de venir le voir, parce que vous allez bien comprendre ce qui se passe. Vous allez entendre ce qui sort des tripes, et qu'il ne suffit pas de faire des conférences et d'en parler, mais qu'il faut vraiment s'unir pour gagner cette lutte. Et que cette lutte, c'est aussi... Il faut qu'on rentre... C'est aussi l'avenir. On a parlé d'avenir tout à l'heure. Il faut voir que la prochaine arme, ça va être l'alimentation, ça va être la terre, l'eau. Et donner ça à quelques firmes ou à la sphère financière pour diriger le monde, il faut vraiment aller en lutte contre ça. La souveraineté alimentaire, c'est une des propositions qui est portée par la Via Campesina. Les exploitations agricoles familiales, c'est elles qui refroidissent la planète, qui respectent pour les générations futures, qui donnent à manger. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se mobiliser. Et c'est urgent qu'on le fasse tous ensemble. Comme on dit à la Via Campesina, globalisant les luttes, globalisant l'espoir.
Merci Chantal, ce sera le mot de la fin sur ce thème. Comme la partie publique de ces rencontres commence demain, on va peut-être énumérer un petit peu le programme. Joël, je te laisse.
Tout à fait, puisque ce jeudi 14 juillet, donc ça s'ouvre au public. Hein. On commence donc à 17h, donc ça sera à Nantes, au Relais Soleil. Et c'est donc avec Michel Merlet, donc, qui est avec nous ce soir, donc conférence débat, donc les grands enjeux des accaparements de terres dans le monde, le rôle des multinationales et les besoins de régulation aux différents niveaux. Donc voilà, ça sera à partir de 17h et donc le soir, donc toujours au même endroit, donc à 21h, c'est les films documentaires donc sur le thème de l'accaparement de terres agricoles.
Voilà, donc c'est à Nantes dans l'Aveyron, si vous nous entendez sur votre radio associative et que vous n'êtes pas trop loin. Vous y êtes les bienvenus, ces rencontres s'annoncent intéressantes. Très bien, merci à tous les trois, donc Michel Merlet, Chantal Iacovetti, Ibrahim Koulibaly, merci Joël, qui représentait Fréquence Paris Pluriel.
Merci Mathieu.
Nico et Steph à la technique, merci à Gilles aussi pour son aide et ses conseils. On vous retrouve dès demain pour la suite de ces émissions dans le cadre des rencontres internationales Gardarem, la Terre et la Mer. Au revoir.
Salut.